À tous, un excellent lundi. Il reste quelques jours avant le début de l'école pour nos enfants et des parents qui sont exténués parce qu'ils ont eu les enfants à la maison toute l'été. Après ça, critiquer le travail des profs, hein? Lâchez pas les parents. Puis pour ce qui est des enfants, ben, d'ici 3-4 jours, vous devriez tous être de retour à l'école. C'est le temps des coupes de cheveux, Audrey?
Oui, ben c'est le temps de se mettre beau. Hein?
Mon gars est en train de s'assassiner avec sa mère parce que là, mon gars, mon plus jeune, il a les cheveux longs. Il voulait les cheveux longs pour jouer au hockey parce qu'il m'a dit que les joueurs de hockey avaient les cheveux longs.
Ouais, ils ont toute cette passe-là.
Puis là, la mère dit non. Non, non, mes
il
fils.
Une petite coupe propre.
Mes fils n'auront pas les cheveux longs, ça ouais. prend une petite coupe propre.
Il y a comme un entre-deux parce que les parents qui coupent les cheveux de leur petit gars aussi vraiment très court, une ouais. petite coupe bol, une petite toupette en plein milieu du front, là. Il y a un bel entre-deux à aller chercher.
C'est ça. Puis tu sais, je sais pas quoi dire à mon gars. C'est parce que je suis comme partagé entre c'est vrai que c'est beau des gars avec les cheveux longs qui jouent au hockey, mais de deux, la mère, elle veut que leurs enfants soient propres, que ses enfants soient propres pour l'école. Fait que je sais pas.
C'est... Là, je leur ferais choix. Donne-y trois choix de couple, là, puis ils choisiront.
Mais mes gars, on dit toi, papa, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, j'ai senti qu'il y avait comme.
T'avais une mission, là. T'avais de quoi ses épaules?
Il y avait comme une arnaque
ouais,
en
c'est ouais. ça, c'est
si
ça.
Si je réponds, ils vont servir de cet
T'es
argument-là contre leur mère. Fait que j'ai dit, réglez ça avec votre mère. C'est toujours plus facile. Quel plaisir de la retrouver. C'est SOS Nancy, Nancy Doyon, qui est en studio avec nous autres. Salut, SOS Nancy.
Hello, hello. Oh.
SOS oui. étant, on t'entend, on okay, t'entend. Okay. SOS étant ton prénom, Nancy étant ton nom de famille.
Oui, c'est ça.
Audrey me posait une question tantôt. C'est quoi le parcours d'SOS Nancy avant qu'elle devienne coach familial?
Moi, à la base, je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé presque 10 ans en centre jeunesse avec les adolescents en troubles graves de comportement. J'ai été même famille d'accueil, 23 ans.
Oh, mon
j'étais famille
Dieu.
D'accueil pour des ados qui sortaient du centre d'accueil puis qui venaient chez nous. J'en ai eu deux sur du long terme. Puis après ça, j'ai été aussi famille d'accueil de dépannage pour des jeunes, des ados où ça sautait chez eux. Puis on espérait ne pas être obligé de rentrer en centre d'accueil. Puis là, ouais. ça venait décanter chez nous. Fait que j'ai fait ça pendant un bout. Après, j'ai travaillé en milieu scolaire, primaire, secondaire. J'ai fini par aboutir aussi en CLSC. Donc, j'ai travaillé en CLSC, maintenant les CIUS. J'ai fait ça pendant 7 ans.
OK, le bagage, il est très, très bon, présent.
Oui.
Non, mais c'est parce que je dis à Yann, coach familial, tu sais, t'as pas ce cours-là à l'école, là, puis on dit tout le temps qu'il n'y a pas de livre pour être parent,
ouais.
mais je me posais la question.
Bien, écoute, j'aime ça que tu poses la question parce que il en pousse de plus en plus des coachs familiaux. Puis, tu sais, coach familial, c'est pas un nom ou une profession qui est réglementée. Donc, Robert, qui est pompiste, peut décider
là.
Demain qu'il devient coach familial. Fait que, n'importe qui peut effectivement s'inventer coach familial. Puis aussi, je vois de plus en plus d'intervenants qui ont une belle expertise, mais qui disent qu'ils font du coaching, mais qui n'ont aucune espèce de formation en coaching. Parce que moi, je suis formée à la base. Je suis formée, je suis éducatrice spécialisée et tout ça. Puis après ça, je suis allée me former en coaching d'affaires. Ne me demandez pas pourquoi j'ai abouti là. Mais c'est vraiment la base de toute mon approche au niveau du leadership éducatif.
OK.
J'avais pas l'intention de devenir coach d'affaires, mais la formation m'intéressait. Ma sœur, qui est maintenant mon adjointe, l'avait suivie. Fait qu'en tout cas, j'ai suivi cette formation-là, puis je me disais, hey, être un leader d'entreprise, puis être un leader de famille, ou être un leader de sa classe quand t'es prof, ça se ressemble. Fait que j'ai tout adapter un petit peu ce qu'on voyait au niveau du coaching d'entreprise à l'intervention auprès des enfants. Puis après ça, je suis allée me former en PNL, en programmation neurolinguistique. Je suis maître praticienne en PNL. Et c'est ça, fait que je vois de plus en plus d'intervenants qui disent « moi, je fais du coaching ». Écoute, je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants qui font du conseil parental, mais du coaching, c'est pas ça. Fait que, tu sais, ça vaut la peine de pour les gens qui veulent faire affaire avec un coach familial. T'sais, moi, j'ai une école de coaching familial. J'ai la première école de coaching familial au Canada.
Wow.
Y en a d'autres maintenant. Il y a d'autres formations en coaching parental et familial.
Est-ce que ça devrait être réglementé, selon toi?
Je pense que ça pourrait pas être réglementé parce que, tu sais, le terme coach, tu as des coachs des coachs de vie, tu as des coachs de sport, tu as des coachs, tu sais. Je pense que le terme coach peut pas être réglementé, mais je pense que c'est quand même à la population de regarder c'est quoi l'expertise de la personne avec qui je fais affaire. C'est quoi, est-ce que cette personne-là a... Bien, tu sais, premièrement, moi, en coaching familial, on va à domicile, puis on donne un coup de main aux parents pour analyser la situation, puis on les coach dans leurs interventions. Ben, tu sais, crime, avant d'aller chez quelqu'un puis lui dire comment gérer une crise, il faudrait peut-être que j'en ai géré une couple.
Exact.
Fait que, tu sais, c'est quoi la formation de cette personne-là, mais c'est quoi aussi l'expérience terrain?
C'est ça. Même les gens que tu formes, toi et ton équipe, les gens que vous formez, doivent avoir une expérience de base.
Oui, chez nous, on est très, très sévère dans les critères d'admission.
Les éducateurs spécialisés.
C'est ça. Donc, les gens doivent avoir...
Des enfants aussi, là?
Oui, ben en fait, c'est ça. Ben non, t'es pas obligé d'avoir des enfants.
Non,
c'est pas nécessaire. C'est un plus, parce que quelque chose que tu comprends quand t'as des enfants que tu comprends pas tant que t'en as pas. Tu réalises quand t'as des enfants à quel point on est manipulable.
Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire dans certaines applications de conseil.
Fait que, mais t'es pas obligé d'avoir d'enfants. Sauf qu'il faut que tu aies travaillé. T'sais, nous autres, on a des critères d'admission. Là, j'ai une formation d'ailleurs là, qui part très, très bientôt, mais on a des critères d'admission très serrés. Les gens, à la base, doivent avoir une solide formation, soit un diplôme d'État, là, éducateur spécialisé, psycho-éducateur, travailleur social, psychologue. Ou encore, on accepte aussi certains amalgames de formation. Fait que, tu sais, quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, un bac par cumul en intervention psychosociale, un coach certifié. Puis là, ben, dépendamment de la personne avec ce qu'elle arrive, puis aussi on exige de l'expérience terrain auprès des enfants. Puis dépendamment du bagage avec lequel ils arrivent, ben il y a comme deux parcours. Ça se peut qu'il y ait plus de formation à faire pour avoir une certification. Sinon, tu sais, d'autres, ils peuvent, tu sais, comme juste faire un niveau, le niveau de base. Là.
C'est quoi les plus grands problèmes pour lesquels les parents t'approchent?
Les enfants.
Oui. Merci, Yann. Je m'en doute.
Mes enfants.
Oh, j'adore. Ben écoute, règle générale, c'est des problèmes d'autorité. Les enfants qui n'écoutent pas. J'ai du mal à me faire écouter. Mes enfants s'opposent. Moi, je me suis spécialisée aussi, il faut dire, je me suis spécialisée à travers les années au niveau de l'opposition, des troubles de comportement, troubles d'opposition. Parce qu'il y a d'autres intervenants qui œuvrent en parentalité, mais qui vont souvent offrir des trucs en parentalité en général, tu sais, pour éduquer des enfants standards. Moi, ma spécialité, c'est les enfants qui sont pas standards. Fait que, troubles de comportement, troubles d'opposition, gérer un jeune qui a un TDAH, problème aussi de consommation à l'adolescence, rivalité fraternelle, les enfants qui s'entretuent.
Ça a-tu augmenté cette espèce de position-là? Parce que je sais pas toi, Yann, mais moi, quand j'étais jeune, là, je me posais pas bien à mes parents. Là. Je veux dire, c'était très strict à la maison, puis j'ai le sentiment que mon entourage, mes amis d'enfance, mais c'est la même chose.
Ouais.
Est-ce que les enfants ont pogné du pic avec le temps?
Bien, il n'y a pas d'études de trucs scientifiques qui démontrent une augmentation des troubles de comportement, mais n'importe quel prof vous dirait que oui. N'importe quel enseignant. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, moi, j'ai 53 ans et demi. Fait que, et quand j'étais jeune, t'en avais un tannant par classe, tu sais, puis le prof, le mettait dans le corridor. C'était pas compliqué.
On le connaissait, là.
C'est ça, on le connaissait, on le mettait dans le corridor, mais il y avait des classes spéciales. Maintenant, en tout cas, moi, quand je me promène dans le milieu scolaire, les profs rushent, là.
Mais les enfants sont plus éveillés aujourd'hui, en 2024, que nous l'étions dans les années 70, dans les années 80, 90. On n'avait pas autant accès au monde extérieur. Tu sais, on avait notre petit monde, notre univers, notre chambre, nos amis qui étaient au parc et tout ça. Là, maintenant, c'est des TikTok, c'est du YouTube, c'est des YouTubers ici à gauche, à droite. Parfois, la délinquance est valorisée dans certaines vidéos. Puis les enfants tentent de reproduire ça à la maison. Moi, j'ai envie de t'amener sur un dossier. T'sais, autant que j'adore mes enfants, autant que je veux être père depuis que je suis très jeune, je me disais, je veux avoir des enfants. Là, j'en ai eu deux. Puis autant que je n'étais pas préparé à ça. Il n'y a pas de mode d'emploi. Puis on essaie de plus possible, Audrey, d'être parfait pour nos enfants. Puis on dit, tu sais, moi, dans 10, dans 15, dans 20 ans, lorsque mes gars seront plus éveillés, ils vont dire, hey, j'ai eu un bon père. Est-ce qu'il faut se l'admettre que c'est difficile d'être parfait? Puis il faut accepter d'être imparfait parfois?
Et tellement. Je pense que présentement, effectivement, les parents ont une pression énorme sur les épaules. Partout où on va, les parents sont comme surveillés, sous observation. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, si je faisais une crise à l'épicerie, là,
ouais.
Tout le monde me regardait, moi, avec un regard désapprobateur, puis moi, je me sentais mal, tu sais. Maintenant, si un enfant fait une crise à l'épicerie, là, tout le monde regarde qui? Le parent. Mm. Et peu importe ce que le parent fera, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va dire que ça n'a pas d'allure. Donc, tu sais, si le jeune fait une crise pour avoir une barre de chocolat, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui va dire, bien, quand il achète sa barre de chocolat, il me semble qu'il n'a pas d'argent, tu sais, il est capable d'y acheter certains. Si j'achète la barre de chocolat, il y a quelqu'un qui va dire, bon, garde l'autre qui négocie avec les terroristes, là, tu sais. Garde l'autre, là, tu sais, qui achète la paix. Si je lève le ton, on dit, hey, ça suffit. Je dis, hey, on parle doucement, un enfant. Si je me le mets en dessous du bras pour sortir avec, quelqu'un va appeler à des pigeons en disant, c'est sûr qu'elle va le battre. Je veux dire. Et si je me mets à sa hauteur pour dire, oui, écoute, je comprends, tu voulais avoir la barre de chocolat, je suis dans l'accueil de tes émotions, mais ou pas aujourd'hui, mon cœur. Bien, quelqu'un va, bon, garde l'autre qui radote avec son enfant. On la garde. Fait que peu importe ce qu'on va faire, il y a quelqu'un quelque part qui va juger que c'est pas la bonne affaire.
Fait que tu me confirmes que parfois, puis tu sais, l'open mic, ça sert à ça, là, on est en toute transparence. Tu me confirmes que parfois, quand je me couche le soir, puis j'ai comme des pensées, il me semble qu'aujourd'hui, j'aurais pu faire mieux que mes gars.
Ouais.
Il me semble que, bon, la bonne nouvelle, c'est que j'en ai pas étranglé aucun, là, mais il me semble que j'aimerais que demain, ça se passe autrement. T'sais, c'est dur de se considérer comme imparfait, comme père. Là.
Ouais, puis je te dirais que comme père et comme maman, on l'est tous. On l'est tous. Ça fait partie de la game. Et c'est là où tantôt, Audrey, tu disais, ben tu sais, il faut avoir des enfants pour être un coach familial. Oui et non. Quand on n'a pas d'enfants, on regarde les autres intervenir avec une espèce de regard où on se dit, « Hey, en tout cas, moi, je ne crierai pas sur mes enfants. Moi, m'a répété juste une fois. Moi, tu sauras que ce n'est pas vrai que je vais y acheter une barre de chocolat s'il fait du chantage. » Puis là, on a toute l'impression là, qu'on va donc bien savoir comment faire. Puis on juge nos parents pour la fois où ils sont, où ils n'ont pas été assez là, où ils ne nous ont pas assez écoutés. Puis quand on devient parent, on réalise que, « Ah, ben non, la perfection, ça se peut pas. Ça arrivera pas. »
Y a-tu des gens qui peuvent se sentir confrontés quand ils entendent des chroniques de SOS Nancy sur les trucs qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer notre relation avec les enfants ou essayer de corriger un comportement négatif de notre enfant?
Ouais, je le constate, je te dirais, là, régulièrement, je fais des vidéos, je fais des posts sur ma page Facebook, puis il y a des gens qui vont faire « Ah, ben c'est ça, je me sens encore coupable, vous nous jugez. »
Oh, okay.
Oui, c'est ça, qu'ils prennent ça personnel, vous nous jugez comme parents, parce que, tu sais, moi, j'aime bien observer. Une des choses que j'aime faire, moi, comme coach, c'est j'observe les interventions qui sont à la mode. Ce qu'on voit beaucoup faire, puis là, je fais est-ce que c'est vraiment si bon que ça? Puis là, des fois, je vais remettre les choses en question. Tu sais, comme, bon, j'ai une vidéo qui fait énormément réagir où je parle de bien, il faut faire attention à ne pas trop valoriser les enfants. On s'est fait martelé depuis des années qu'une des bonnes interventions, c'est le renforcement positif. Donc, quand les enfants font ce qu'on veut qu'ils fassent, leur dire bravo, super, champion, puis tout de même, tu lui fais un petit tableau de motivation, puis lui donner des récompenses, puis moi, ça me gosse.
Comme avec les chiens, finalement.
Ben voilà.
Je fais ça avec mon golden.
C'est exactement... Regarde, tu vois exactement où ma pensée est allée. Tu sais, je me dis, ben là, tu sais, si j'éduque mes enfants avec... Les punitions, c'est pas génial non plus, mais la survalorisation, tu sais, c'est comme chaque fois que tu fais quelque chose de bien, m'a donné un anane, ben c'est ça, j'ai l'impression qu'on dresse un chien.
Oui, bien, puis c'est surtout que moi, je me dis, en vieillissant, en grandissant, si t'as pas assez de valorisation dans ton travail ou que t'as pas de retour à chaque fois que tu fais un mouvement, ben tu seras jamais bien, tu seras jamais heureux.
Exact. On crée de la dépendance à la valorisation. Et là, écoute, tu comprends que les parents qui valorisent beaucoup leurs enfants en pensant bien faire, en disant « Bien, regarde, moi, je vais nourrir son estime personnelle », bien, quand ils entendent cette vidéo-là, ils ils sautent deux pieds d'eau, ou bien ils se fâchent après moi en disant « Non, 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 pour qui vous vous prenez, pour tata? » Ou bien c'est comme « Bon, c'est ça, on fait jamais rien de bien, et puis tata. » Et il y a des gens que ça heurte. Et c'est triste parce que, tu sais, dans le fond... Je veux pas heurter personne. C'est pas l'objectif. Mais en même temps, je trouve ça important qu'on réfléchisse sur nos pratiques. Et là, je suis pas en train de dire qu'on ne doit jamais valoriser les enfants. Mais tu sais, moi, quand le parent, c'est comme « Oh, bravo, je suis fière de toi, t'es bien assis. Hey, bravo, je suis fière de toi, t'as mangé, t'as goûté à ton brocoli. Hey, bravo, je suis fière de toi, tu tiens bien ta fourchette. Oh, bien, attends un peu, là, tu sais, tu seras fière de... » Ben oui, puis tu sais, je veux dire, je suis fière de toi... on peut-tu garder ça pour les grandes occasions? Là, tu sais, on peut-tu...
Est-ce que quand tu rencontres une famille, tu prends le temps de regarder un peu pourquoi le parent éduque son enfant de telle manière? Oui. Pourquoi, par exemple, c'est donc bien la valorisation qui est mise de l'avant? Des fois, j'ai l'impression que ça peut partir d'un certain passé aussi, tu sais.
Oui. Oui, effectivement, on constate. Nous autres, quand on va en coaching familial, je dis « on » parce que j'ai une équipe. Quand on va en coaching familial, notre première rencontre, c'est justement l'idée, c'est de comprendre comment ça marche dans la maison, c'est quoi la dynamique familiale, puis le pourquoi du comment de chacune des personnes. Puis effectivement, souvent, on va constater que, par exemple, quelqu'un qui aurait grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de violence pourrait tomber dans l'excès inverse. Et ne pas oser être dans la fermeté, parce que des fois, les enfants ont besoin d'un stop ferme. Ose pas être dans la fermeté, parce qu'on a trop peur de tomber dans la violence. Le parent qui aurait manqué de valorisation pourrait tomber dans l'excès inverse et d'être dans la survalorisation de l'enfant. Le parent qui a manqué de liberté puis qui a grandi dans un milieu très, très, très sévère et rigide pourrait tomber dans l'excès de ne pas mettre du tout de limites. Et l'inverse est aussi vrai. Le parent qui aurait grandi dans un milieu qui manquait de limites pourrait devenir carrément très, très, très rigide et slash militaire. Mm. Fait qu'une des choses qu'on regarde, c'est comme, tu sais, papa, toi, dans quel genre de milieu t'as grandi? Maman, toi, dans quel genre de milieu t'as grandi? C'est quoi les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants? De quelle façon vous voulez transmettre ces valeurs-là? Parce que derrière nos interventions, la plupart du temps, il y a une valeur qui est derrière. Mm. T'sais. Fait que, tu sais, si j'ai un parent qui est très strict sur la coupe de cheveux, par exemple,
ouais,
il y a une valeur derrière.
Ben oui, c'est ça.
Il y a une valeur derrière. Mais... Et c'est intéressant de se demander c'est quoi la valeur qui est là.
Ben, c'est vrai, Nancy, je comprends pas pourquoi les gens sont confrontés quand ils voient des vidéos où tu démontres des techniques que les parents pourraient essayer pour améliorer la relation. Tu sais, c'est comme si, là, c'est un peu philosophique, mon affaire, mais l'humanité s'est bâtie par le mimétisme. Puis les anciens étaient toujours priorisés dans une communauté parce qu'eux avaient déjà vécu toutes ces étapes-là. Ils avaient vu comment ça se passait, pouvaient un peu te rapporter un peu l'histoire, les bons coups, les mauvais coups. Puis si tu étais collé sur eux, tu avançais beaucoup plus vite parce que tu ne faisais pas les erreurs qu'eux autres ont fait.
Ouais.
Donc, quand il arrive avec quelqu'un qui est une coach familiale, qui a fait plusieurs années dans ce domaine-là, en interaction avec les parents versus les enfants, toi, tu leur apprends des techniques qui ont été prouvées.
Oui, bien, les techniques, c'est pas pire, ça. Je te dirais, quand c'est une technique que j'enseigne, les gens, généralement, réagissent plutôt bien. C'est quand je viens ébranler des croyances, quand je viens remettre en question des interventions. Là, c'est là où c'est plus difficile. Puis, tu sais, tu l'as nommé tantôt, Yannick. Nos enfants, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et souvent, notre rôle de parent, c'est le rôle le plus important à nos yeux. Donc, on veut performer, on veut être bon. Parce qu'on est souvent conscient qu'on est en train de fabriquer des humains. Fait qu'on veut être bon. Et dans ce sens-là, on fait tout ce qu'on pense être le mieux. Fait que quand quelqu'un vient nous dire « Ouais, mais ton mieux que tu faisais depuis 3, 4, 5, 6 ans, finalement, c'est pas terrible. » C'est sûr que c'est dur à avaler. Et là, ben moi, ça, c'est quelque chose qui me fascine, que j'observe depuis plusieurs années. L'humain a tellement de mal à se faire remettre en question dans toutes les sphères. C'est fou comment...
Mais ça revient à ce que je te disais. T'sais, moi, je jase souvent avec des communautés d'affaires, puis le réflexe que plusieurs hommes et femmes d'affaires ont, c'est qu'ils se greffent à des gens qui ont plusieurs années d'expérience. Puis pourquoi? Parce que ces gens-là vont leur faire avancer, t'sais, pas en 5 ans, 10 ans, en peut-être 2-3 rencontres, ils vont leur faire prendre l'expérience comme ils n'auront jamais eu. Ils vont cheminer. Donc, de voir que quelqu'un dit « Ah ben moi, j'ai regardé ta vidéo, ça fait 5 ans que j'essaie ça, puis là, je vois que cette technique-là n'est pas bonne, t'sais, je comprends pas, je me sens confronté. » Mais attendez un peu, on est là, toute la gang, pour s'améliorer.
Ouais.
Essaye-le, puis si tu essaies tout le temps la même technique puis ça ne fonctionne pas, ben, des fois, ça peut peut-être changer de technique.
Mais il y a ça aussi. Il n'y a pas un enfant qui est pareil. T'sais, j'ai l'impression qu'on parle, mettons, de valorisation, mais j'imagine que les techniques sont choisies selon le petit mousse que tu as devant toi aussi. Il n'y en a pas un qui a le même caractère, la même personnalité.
Oui, puis là, tu sais, on parle de techniques depuis tantôt, mais tu sais, il y a des techniques d'intervention, des trucs, des stratégies d'intervention, mais dans la parentalité, tout se joue dans la relation. Et la relation commence d'abord par, j'appelle ça l'observation-conscience. J'observe mon enfant. Mm-hmm. Tu as deux garçons d'âge rapproché. qui ont des similitudes, mais qui ont aussi des différences. Fait que je trouve qu'une des premières jobs des parents, c'est d'observer et de réfléchir. Éduquer des enfants, c'est pas une question de... C'est pas juste une question technique, comme un chien, justement. Tu sais, si je vais... je fais un cours de dressage avec mon chien, le dresseur va me donner des techniques, puis une fois qu'il est dressé, c'est réglé. Mais les kids, c'est pas ça, là. Fait que, tu sais, ça change, ces petites bêtes-là, tu sais. Fait que... Et donc, il faut que je sois capable, comme parent, d'observer ce qui se passe pour mon enfant présentement, être capable de prendre la hauteur, puis c'est notre job de coach, prendre la hauteur, puis de se demander qu'est-ce qui génère les problèmes de comportement de mon jeune? Il a du mal à se coucher le soir. Bien oui, il y a des techniques qui existent, avoir une bonne routine. Il y a une technique que j'enseigne avec des jetons. Il y a la technique de la chaise qui se rapproche de la porte. Fait qu'il y a plein de techniques, tu sais, de... Ouais, mais il faudrait que j'observe. Mon jeune, mon enfant, à quel âge? C'est-tu un bébé? C'est-tu un enfant de 2 ans? C'est-tu un enfant de 6 ans? S'il est difficile à coucher, c'est-tu parce qu'il est anxieux? C'est-tu parce que je le couche au mauvais moment? C'est-tu parce que l'organisation de sa chambre ou l'endroit où sa chambre est, c'est anxiogène pour lui? Est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas que c'est l'heure de se coucher parce qu'il fait clair et qu'il veut encore jouer? Est-ce que c'est moi qui manque d'autorité? Est-ce que j'ai bien rempli son réservoir affectif dans la journée, ou bien j'étais pas tout à fait là, puis finalement, à l'heure du coucher, c'est sa façon de venir chercher de l'attention. Donc, tu sais, notre job de coach, c'est d'aider le parent à réfléchir, observer son enfant, comprendre qu'est-ce qui se passe pour lui, puis adapter son intervention en fonction du tempérament puis des besoins de cet enfant-là. Tu as des enfants qui ont besoin d'un cadre plus strict. Tu as des enfants qui ont, à l'inverse, dans un cadre strict, ils étouffent, puis ils vont s'opposer davantage. Ma fille avait un tempérament plus opposant et dans un cadre strict, elle avait tendance à déjouer. Plus il y avait de règles, plus elle avait tendance à les déjouer. Plus on était dans le contrôle avec elle, plus elle avait tendance à se braquer. Pas faire de l'opposition ouverte, là, d'essayer de contourner. Alors, elle, la meilleure stratégie, c'était vraiment de la responsabiliser. Puis dire, bien, écoute, moi, je te suggère que ton heure de coucher soit autour de 8 heures. Mais si je voulais qu'elle soit couchée à 8h03, j'allais partir en guerre à tous les soirs. Si je laissais une marge de manœuvre, puis que je me disais, bon, pourvu qu'elle soit couchée entre 8h et 8h15, elle se couchait à l'heure, qui, tu sais, au moment qui lui convenait là-dedans, puis là, rendu à 8h15, là, je pense que t'exagères, ma choupinette, là, tu vas être fatiguée demain. Puis là, ben si elle brettait, le lendemain, elle était fatiguée, je dis, ben ouais, mais c'est pour ça qu'il faut que tu te couches le soir. Mais si je partais dans là, si tu te couches pas, dans 3 minutes, demain, tu vas te coucher plus tôt, regarde-moi, ça aurait pas marché, là.
Comme ça aussi.
Donc, c'est énormément de techniques, puis tu sais, j'en ai donné un tantôt à Audrey que tu m'avais donné. Moi, j'avais peur pour le lac, là, avec les enfants, puis t'as dit, Yann, t'as été extrêmement cruel à ce moment-là. T'as dit, Anne, supervise-le, mais laisse-le tomber une fois dedans.
Ouais.
Puis je me suis dit, mais voyons, c'est qui est SOS Nancy? C'est une femme cruelle. Puis tu sais quoi? Le jour où j'ai vu mon gars s'approcher, j'étais persuadé qu'elle allait se planter. J'étais avec mon beau-frère sur le bord d'un feu. Puis Isaac était encore en couche. C'était un soir d'été, il faisait super beau. Il avait lancé son ballon dans l'eau. Puis là, il est allé le chercher, mais il n'était pas encore assez fort pour se retenir dans la petite pente là, pour aller vers le lac. Il est tombé directement dans le lac. Mon beau-frère me regardait comme si j'étais Saddam Hussein là, en Irak. Puis là, il dit, mais tu vas pas le voir. Je dis, oui, je vais y aller. Mais je vais y aller en marchant. Puis là, j'étais allé en marchant, je l'ai sorti de l'eau. Mon gars, là, plus jamais il rapprochait le lac sans qu'on soit près de lui.
Il a compris.
Ouais. Puis aujourd'hui, là, quand il va sur le lac avec son frère, c'est toujours le premier à mettre sa ceinture de sécurité parce qu'il se souvient du temps où il était bébé puis il est tombé dans le lac.
C'est fou comment ça marque. Hein? Jusqu'à quel âge t'aides, je vais dire, les familles par rapport à leurs jeunes? Parce que des enjeux de relation parents-enfants, tu peux en avoir toute ta vie. Là.
Exact. Nous autres, on va y aller peut-être jusqu'autour de 20 ans.
Okay.
20 ans, 20, 21 ans. Tu sais, des fois, on a des
pour
parents...
Pour les gars, c'est 45, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Toujours plus long, hein? C'est
un... Mais tu sais, c'est ça, 20, 21 ans. Je me souviens d'être intervenue avec un jeune homme qui avait 21 ans. Okay. Puis lui, problème d'habileté sociale, nouveau milieu de travail. Tu sais, tout le long qu'il était à l'école, tu sais, un jeune qui avait de la misère à se faire des amis, puis tout ça. Puis là, ben, quand il est arrivé sur le marché du travail, là, son père s'inquiétait parce que là, il allait travailler, il revenait à la maison, il gameait. Mais il faisait rien, il sortait pas, puis tout ça. Puis là, ben, tu sais, en discutant... Il dit, écoute, je sais pas comment me faire des amis, je sais pas. Puis là, dans son nouveau milieu de travail, il vivait du rejet un peu. Fait que elle part a proposé justement du soutien. Puis c'est le jeune qui m'avait entendu à la radio.
Ah oui?
Elle disait, ouais, mais elle, là, des fois, on l'entend à la radio, là, tout de même que ça serait correct.
Elle pourrait m'aider, ouais. Elle, là.
Fait que je suis allée, ouais, j'ai fait plusieurs rencontres avec ce jeune-là pour l'aider à développer ses habiletés sociales et finalement, draguer un peu.
Tu parles des habiletés sociales. Faut dire que l'école commence cette semaine. Il y a bien des parents qui, aujourd'hui, s'en vont dans les rencontres là, à l'école, voir comment ça va marcher. J'ai vu que tu avais une espèce de guide qui était en place, un outil spécial pour aider son enfant à développer justement ses habiletés sociales. Comment ça fonctionne? Parce qu'il y en a beaucoup des timousses là, qui ne l'ont pas pantoute et qui se ramassent tout seul en cours d'école.
Oui, ça c'est drôle. Hein. Les habiletés sociales, on dirait qu'il y en a que c'est comme Obélix qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Là, ça a poussé tout seul. Puis d'autres que, ben tu sais, je dis, moi, les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et bon, ben moi, un de mes chevals de bataille dans la vie, c'est l'intimidation. J'ai quand même écrit quelques bouquins là-dessus. Puis je donne beaucoup de formations là-dessus. Puis quand j'ai lu les bouquins, ils disaient qu'à partir du moment où les enfants ont ne serait-ce qu'un seul ami, les risques qu'ils subissent de l'intimidation viennent de diminuer de moitié. Plus un jeune a d'amis, moins il risque de subir de l'intimidation. Et s'il en subit, ben ça va moins
l'affecter.
Oui, c'est ça, ça va moins l'affecter, ça va moins nuire à son estime personnelle. Donc, ça vaut le coup que comme parents, on mette de l'énergie à enseigner à nos jeunes les habiletés sociales. Tu sais, les habiletés sociales, il y a entre autres les habiletés sociales de prise de contact. Est-ce que mon enfant sait aller vers les autres? Là, les Boswell d'écran, là, tu sais, c'est quelque chose, je trouve, qui est hyper corrosif pour les habiletés sociales. Les jeunes ne savent plus appeler des amis. Ils savent pas comment on appelle un ami. Ils savent pas, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, on voulait jouer avec quelqu'un, là, on allait cogner à sa porte. Nastar, tout se fait par les écrans. Mmh. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, les jeunes, on dirait qu'ils savent pas comment aller vers les autres. Quand on reçoit de la visite, là, est-ce que les jeunes, je les oblige à lâcher leur écran pour venir dire bonjour, regarder les gens un peu dans les yeux, sourire, poignée de main sans un?
C'est drôle que tu dises ça parce que adolescente, moi, il y a un moment où Snapchat devenait, ça commençait, là, puis c'était vraiment populaire, puis la moitié de nos discussions d'ados puis de crouses se faisaient par texto. Ce qui faisait que quand on arrivait à une première rencontre, une première date, on n'avait plus rien à se dire, puis on savait pas comment briser ce malaise-là, parce qu'on était habitués de se texter chacun dans nos chambres de notre côté, tu sais.
Exact. Puis c'est tellement plus facile, tu sais, via texto, ben oui. Fait que tu sais, mais ça commence à se travailler à la maison. Tu sais, quand c'est ça, quand il y a de la visite, t'as obligé les enfants à venir dire bonjour. Quand on va en visite, ben oui, je vais, tu sais, si t'es tout seul d'enfant avec une gang d'adultes, oui, je vais te permettre d'amener ta tablette, mais je vais te demander que tu passes au moins une demi-heure à discuter avec les gens. Je vais te demander à l'heure du repas d'interagir, d'écouter un peu ce qui se passe, de venir dire ton mot. Tu sais, je veux dire, ça s'enseigne et ça s'entraîne.
Oui, il y a un horaire à la maison.
Ah ouais?
Ils ne sont pas libres de jouer tout le temps aux jeux vidéo. Ils peuvent le faire quand ils se lèvent le matin, ils peuvent jouer une heure, deux heures ensemble entre frères. Puis après ça, ben, c'est dehors ou ils jouent à d'autres choses en dedans. Puis sinon, c'est le soir, peut-être après souper, là, je te dirais qu'ils ont une heure. Fait qu'entre 18h et 19h, ils peuvent jouer aux jeux vidéo les deux. Mais après ça, c'est fini.
Puis, tu sais, de dire, ben, mettons, en visite, c'est pas permis. Tu sais, moi, ça, c'est quelque chose qui me heurte énormément quand je vais dans les restaurants et que je vois papa, maman discutent, chaque enfant est sur sa tablette.
Parce qu'on abandonne facilement, je dis, j'accuse, là, mais on abandonne facilement. On est dans un restaurant, on veut passer un beau moment, on veut pas être énervé, nos enfants sont turbulents. Tout d'un coup, ils ont chacun leur téléphone cellulaire.
Puis ça se passe bien.
Puis là, tu peux jaser avec ta conjointe ou ton conjoint. Mais c'est sûr que quand tu es une personne seule à côté, puis tu regardes la famille, tu te dis c'est donc bien triste.
Oui. Ben oui, c'est triste. Et je le comprends. Je le comprends. Mais en même temps, tu sais, bon, si ça arrive une fois de temps en temps, je veux bien. Tu sais, maintenant, on est allé au glissade d'eau. Les enfants sont brûlés. On arrête de manger au resto. Puis, tu sais, ils se reposent un peu. Il n'y en a pas de problème. Mais si c'est systématique, qu'au repas ou que quand on sort, les jeunes sont pluggés sur leur écran d'un bout à l'autre, ça pose problème. T'sais. Puis quand moi j'observe ça, les gens disent « Ah, oh, c'est un Nancy à juge. » Attends un peu. Non. Moi, j'observe. Je vois quelque chose. Je ne sais pas. Moi, je vois une photo. Là. La famille que je vois toute sur leur écran au resto, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur journée. Puis peut-être qu'ils ont passé la journée à jaser, puis qu'ils vont passer la soirée à jaser, puis que c'est juste pour ce bout-là. Je ne sais pas. Mais je vois...
On a quand même le jugement plus facile. Es-tu d'accord? Mais je comprends donc. Es-tu d'accord avec ce que les écoles vont faire du côté d'Oka? Puis de Chic de Rochebelle aussi à Québec, on va le pratiquer sur le fait de mettre les téléphones dans des petites pochettes qui vont s'ouvrir seulement à la fin des classes pour forcer les jeunes à socialiser dans les pauses.
Tellement. Tellement. Ouais.
Ils vont faire quoi rendu au cégep à Swiss Nancy? Il n'y en aura plus de petites pochettes.
Bien, ils vont avoir appris à socialiser, c'est okay. Ça l'affaire.
Je comprends, mais à partir du... Là, on va se pogner, là. On aurait dû commencer
mais j'étais curieuse,
moi. Mais à partir du moment où tu dis, OK, dans mon école, dans les classes, interdiction de cellulaire. Ouais. Puis tu vois le cellulaire arriver, tu dis, ça, c'est ton premier avertissement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton cellulaire? Tu vas le mettre dans tes poches? Parfait. Le lendemain, même affaire. OK, encore ton cellulaire. Deuxième avertissement, troisième avertissement. Tu sors. Tu t'en vas voir le directeur. Le directeur t'avertit. Demain, tu ne viens pas à l'école. Tu restes à la maison. Le parent est obligé de rester à la maison avec son enfant parce que son enfant a sorti le cellulaire. Techniquement, l'enfant ne devrait pas revenir avec son cellulaire à l'école.
Dans un monde idéal, cher Yannick, les profs feraient ça.
Moi, moi, je leur apprends à arriver un jour sur le marché du travail puis à apprendre qu'ils ont un boss.
Mmh. Ouais. Un manque de staff dans
les écoles d'accord,
aussi,
mais c'est parce que là, les profs, là, ils ont ça à gérer.
Entièrement
plus
d'accord.
mille et une autres affaires. Et un téléphone, c'est facile en tabarnouche de l'ouvrir puis de le regarder en dessous de ton pupitre. Et là, les profs vont devenir les polices du cellulaire. Écoute, moi, là, j'ai travaillé en milieu scolaire. Moi, juste là, le phénomène de... Ils n'ont pas le droit de mettre de casquette dans l'école. Hey, moi, là, faire la police de la casquette, là, j'intervenais sur des Boswell de casquette 42 fois par jour. Et les 42 fois où j'intervenais sur des casquettes, je n'étais pas en train d'être en relation avec des jeunes qui en avaient peut-être besoin. Fait que, tu sais, la police du cellulaire, là, ils ont d'autres choses à faire, les profs. Là. Ils sont là pour enseigner. C'est aux parents entraîner la capacité des jeunes à s'autoréguler par rapport aux écrans. C'est pas la job des profs.
Parfaitement d'accord. Mais bref, tu sais quoi, on va se garder ce sujet-là pour la prochaine fois. SOS Nancy, tu as des formations qui sont offertes pour les parents sur ton site internet, sosnancy.com. Là, tu t'en vas-tu dans les autres pays, là, enseigner le coaching familial bientôt? Là?
Non, j'en ai pas.
Le Maroc n'est pas là cette année?
Non, j'en ai pas de prévu présentement pour cette année. J'espère bien.
Je le souhaite.
Mais je voyage au Mexique, par contre, qui s'en vient, que j'organise avec plusieurs conférenciers. Un voyage plus pour les adultes. Parents, mais pas juste les parents, là, un voyage de croissance personnelle au Mexique.
Vous appelez ça un voyage d'affaires? Hein?
Ben oui.
Oui,
ben,
oui.
C'est parfait. Moi, j'entends vraiment ça.
Oui. On va donner des ateliers et des conférences.
Exact.
Mais tu sais, on va aussi profiter de la vie parce que ça fait aussi partie d'eux. Mais sinon, non, j'ai pas d'autres voyages outre-mer de prévu, sauf qu'effectivement, je donne beaucoup de conférences, de formations dans les écoles, dans les garderies. J'ai une équipe maintenant de formateurs qui donne mes contenus aussi dans les écoles. Donc, c'est la rentrée. On recommence drette là. Puis sinon aussi, j'ai beaucoup de formations web qui sont là, que les gens peuvent aller consulter et écouter au moment qui leur convient.
J'espère qu'on va se rejaser bientôt parce que j'ai encore mille et une questions.
Bon, un chaud et charmé.
Ah oui, moi j'ai des petits coups de cœur.
SOSNancy.com, merci.
Ça va faire plaisir.
Aujourd'hui, chez PharmaPrix, ouvrez votre appli